R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Bonjour. Pardon, anglais, Paul. Wow. You know, I bask in the power of the two presentations, and once again, and none of us who know the work of Nassar or Madame Verger.
Oh God, you gave me
a crimp. François. Would be at all surprised at the power and clarity of the presentations, and both again insist, I think, that we understand late liberalism, capitalism, as a colonial artifact. There's not liberalism and colonialism. There's not late liberalism and colonialism. There's not capitalism and colonialism. They're all artifacts of colonialism. And thus, the discourses of liberal liberty, of mankind, the one with the watch, Blanc, are artifacts of colonialism. And this, for me at least, is my understanding of late liberalism, my understanding of gerontopower power stands on top of this long-standing insight, and insights that, as François knows, has a long genealogy from, well, Martinique, Césaire, Glissant, you, but also Du Bois, right, who is standing in Brussels, I think in the 30s, of course. He went back and forth, and here he is looking at this marvel of the new European urban and the flâneur as the urbain, who is developing this new sociality, this stranger sociability, etc., as they're walking on the stones of Congo, as they're looking at the copper embossments ripped out of the guts of the Belgian colony. And ripped out because gerontopower power, that division between non-life and life, is not merely a division between geos and bios, but of people. What? It allows the oceans to be used in a certain way, to be seen in a certain way. But it also divides the colonial world against itself on that same metric. So Stone Age people, yeah, to different kinds of noble or ignoble savages, the Sauvage, is animated by this idea that those stones, that you can hear Du Bois's shoes clicking along, aren't the stones gleaming civilization's advance, but the sadism of those who could think that their glimmering cities are anything but the leaking of blood elsewhere. Yeah. Right. So this is something that both of your work, the long genealogy, that certainly takes us back to say the virtual debate that was between Arendt and Césaire about Arendt's argument that there's colonialism, imperialism, and colonialism happened because Australia and the U.S. lacked any civilization. Imperialism was a different artifact. Is it to Césaire? It's colonialism. Okay. That organizes territory, which is waters, flows value, right? In a way that makes liberalism occur in what it is. So the question indeed, where both of y'all land, is how to have perhaps protest, liberty, freedom, but not that liberty, not that protest, not that freedom. Not Blanc. And whiteness, I mean, when you're saying Europe, whiteness itself is an artifact of this. It's an artifact, right? The ordering of the public is an artifact, singing or elsewhere. So I thought we would maybe could open the discussion along, either deepen that, this nomos of the earth, but open it into the two places y'all left us, or the same place y'all left us in different examples. The one, the question of forms of, a protest is wrong, forms of otherwising, I would, maybe liberty, I'm not sure, like freedom from, that's what interests me, like which singing, right, gathering, but not in that ordered way of the no vote, and these different modes of watering, right? And here, of course, you know, as I'm sure everyone knows, especially if you're from the U.S., the protest against at Standing Rock, yeah, in which one of the guiding principles was we are water. We are water. But it's not the militarization of the water, it's not the killing fields of the water. It is a kind of, I mean, we all return to the water, but it's not the cemetery. Yeah. And it makes it difficult to find a space for this otherwise, because you have to, what I sometimes say, it's like liberalism which emerged out of colonialism, made itself, one aspect of itself, a funhouse mirror, so that in which those that it colonized were forced to look and say, kind of like that, but my hips are not that big. Funhouse mirror? Yeah. So it's, no. We do go back to the water, but it's not your cemetery, right? It's not what Christine Sharp called, like, living in the wake. It's freedom from, so we want to, but it's not your liberty. It's not your idea of freedom. So, they're not quite questions, they're more like, more, please.
Thank you very much. I might say something in English, but I think it's okay if I switch to French? Okay.
Bravo.
Bravo, traducteur. Alors, oui, tout à fait. En fait, ça me permet... Merci beaucoup pour ces premières invitations, puisqu'elles sont plus des invitations que des remarques. Et Et effectivement, cette façon, peut-être, de une première chose, ça va être un peu décousu, mais c'est comme ma présentation, donc tout va bien. Je repensais à cette figure du flâneur de Walter Benjamin, qui pourrait en fait être, alors là pour le coup, revendiquée, parce qu'il s'agit de flâner de par le monde, non pas parce qu'il appartient à quiconque, mais parce qu'il est un objet ou il est un objectif de dépossession, c'est-à-dire de ne plus être la propriété de quiconque. Et donc je trouve que enfin, c'est aussi cette tentative-là que j'essaie de faire. Et sur la question de la roche, de la pierre, en fait, il y a un aspect que je n'ai pas évoqué, mais pour lequel j'avais des photos qui étaient d'ailleurs assez dures, qui ont à voir avec justement cette façon de se laisser prendre par un régime politique qui est celui de la propriété, qui en même temps coexiste, par exemple, en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, avec le régime selon lequel la terre n'est pas une propriété. En fait, c'est exactement ce qui a été décrit hier de multiples manières. C'est la même cosmologie et c'est la même tentative en fait qui est réitérée constamment, qui consiste à dire les humains appartiennent à la terre et non pas l'inverse. Et ça vient percuter une contradiction fondamentale qui est que une des conditions de possibilité de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie repose sur le nickel et sur l'extractivisme. Et donc, si comment faire pour être à la fois pour et c'est mis en œuvre, c'est-à-dire qu'il y a une économie extractiviste en KNC qui a été développée à partir d'un modèle qui se veut être un modèle d'autonomie par rapport à la France, avec ses propres alliances, son propre redéploiement dans le Pacifique, notamment avec des alliances avec la Chine, avec la Corée. Donc quelque part, ça reste pris dans le Geonto Power. Si j'ose dire, il n'y a pas moyen de s'en sortir de ça, de s'extraire de ça, si j'ose dire, de l'extractivisme. Et en même temps, donc toute la question, c'est de savoir comment est-ce que cette force tellurique qui est constituée par la Kanaky peut exister indépendamment de cette seule perspective économique qui pour le moment existe, qui est celle d'extraire le nickel des entrailles de la terre. Et c'est quelque chose qui se voit lorsque on arpente en fait l'île, puisque c'est sur la grande terre, hein, sur l'île principale que le nickel est extrait. Entre ces espaces touristiques paradisiaques et préservés, et la côte est, qui est une côte qui est éventrée, qui est retournée par toute la machinerie humaine qui a été imposée depuis le début de la colonisation pour exploiter cette richesse. Et alors, a fortiori aujourd'hui, puisqu'elle est dans nos téléphones portables. Je ne veux pas insister sur la tablette, mais c'est... Voilà. Donc, cette contradiction-là, elle est au cœur du projet Kanak. Elle fait partie des conditions de possibilité de surmonter, justement, de devenir un interlocuteur d'égal à égal avec la puissance coloniale. Mais elle a en gestation la destruction même du monde Kanak. Et ça va de pair avec ce qu'a été l'histoire de l'Algérie, qui est une histoire d'une société fondée sur l'économie extractiviste des énergies fossiles, qui aujourd'hui sont devenues le tombeau, en fait, de la société algérienne. C'est la malédiction de la société algérienne, les énergies fossiles. Donc cette question-là se retrouve réitérée, reconduite, alors que d'autres voies, d'autres chemins, en fait, existent. C'est un peu ce que j'ai essayé de montrer entre la façon dont, par exemple, les déportés algériens se retrouvent dans cette colonie pénitentiaire et de peuplement qu'est la Nouvelle-Calédonie. D'autres chemins existent. Mais ça n'est pas ceux-là qui affleurent, ce ne sont pas ceux-là qui sont mis en évidence et qui parviennent, justement, à contester ce que vous dites au sujet de contre quoi est-ce qu'on proteste ? Pas la liberté, pas l'humanisme. C'est pas ça qu'on veut, en fait. On veut pas de cette liberté-là, et certainement pas de l'humanisme dans les conditions où il a émergé, en fait. L'humanisme a été la voie de négation de toute une partie de la vie, et notamment de la vie humaine de par le monde. Donc il y a un mot commun en fait, qui est revenu et qui a déjà été évoqué hier, qui est celui de dignité, et qui semble être beaucoup plus revendiqué et praticable, d'une certaine manière, parce que une... Parce qu'il peut peut-être être... parce qu'il a été abandonné, d'une certaine manière, par, et qu'il a été bafoué par, par les puissances coloniales au fil des siècles, et qu'il reste peut-être encore moyen de s'emparer de cette notion-là pour justement contrecarrer le procès de civilisation qui consiste à dire « nous allons vous offrir les voies de la liberté ». Alors, on ne parle même pas de l'égalité homme-femme, qui est quand même la grande manière de... reprendre la main, de reprendre le contrôle sur les anciennes populations colonisées en leur expliquant qu'elles ne sont pas capables de faire advenir l'égalité homme-femme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette notion-là, lorsqu'on l'écoute à l'aune de, justement, otherwising, on comprend à quel point est-ce que c'est d'une pauvreté politique absolue. C'est l'expression même de l'indigence politique, c'est une absence totale d'imagination de ce que peuvent être les relations que nous devons nouer de plus en plus avec tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous fait, tout ce qui nous compose. Pour autant, c'est une doctrine qui a de plus en plus d'influence, en fait. Et qui, alors, elle en a d'autant plus que c'est sans doute la doctrine du va-tout, du dernier espoir, c'est-à-dire... D'une certaine manière, les puissances occidentales sont en train de s'amenuiser de ce point de vue-là, et elles utilisent tout ce qu'elles peuvent dans une sorte de contre-attaque extrêmement violente, et ça en fait partie. Donc, c'est pas très étonnant, effectivement, que dans ces espaces-là, il y ait une volonté de ne pas reprendre ce vocabulaire-là, de refuser de dire les choses et les relations dans ces termes. Et donc de sortir de ce double régime qui est celui de la discipline et du contrôle qui leur a été imposé constamment.
Very quickly, and then turn just to because I want to move to François. Two very quick. On the one hand, I think that the tension, contradictions of New Caledonia's potential ability to become a nation because it has the potential for, or is in extractive capital, indeed shows, or further shows, the way in which nationalism is itself. Mm-hmm. Yeah, okay, so that point. Which I think you were saying, but I just want to underline it. For everyone. The second is, you know, the flâneur from a critical indigenous perspective dispossesses the world in a colonial way. And I also want to underline that insofar as to belong in, say, in an indigenous way in Australia or Aboriginal here, say in Glenn Coulthard's or Audra or Elaine Morton Robinson's understanding of belonging, co-belonging, does not mean anyone and everyone can go everywhere, which is the flâneur, this stranger sociability that was. Pulled out of this colonial, extractive, vicious relationship. It's to say, no, you have to be related and be obligated in a very specific way. And not even exclusive, it's not even an exclusive, oh, you blanc cannot come here. No, you want to come here? Okay. But you have to be absorbed into our mode of belonging to. And if you were absorbed into our mode, if you were governed by our mode of belonging to, there are things you cannot do. Indeed, you cannot be a flâneur and you cannot be engaged in extractive capitalism and et cetera, et cetera. You probably cannot have a nation. Yeah. And I don't think that solves the problem, but it opens, I think, a really necessary space between this Western Occidental idea that either everyone can go anywhere or you're in a kind of fascism. No, those are not the options. Yeah, what? But thank you.
Alors, je peux juste finir. Ça dérange pas, bon? Je voulais juste. May I just add a point to this? I completely agree about the question of whether nationalism is the only perspective possible, especially because there has been something that has been discussed. Oui, je suis passée à l'anglais là. Pardon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a une discussion sur les modalités de sortie de la souveraineté de la puissance coloniale qui est à l'œuvre depuis des décennies, mais qui fait partie de la discussion sur la colonisation elle-même. Et ça s'est réactualisé à un moment donné en KNC, mais ça a été aussi le cas, je pense, en Algérie à un moment donné et dans d'autres espaces, qui est celle de l'indépendance association. Alors, qui est une fiction absolue et qui est une sorte de marché de dupes, mais qui permet justement, et ça c'est quelque chose qui est entendu y compris de la part des peuples autochtones, ça renvoie à la question des peuples autochtones qui n'ont pas vocation à demander leur indépendance et à constituer une nation indépendante avec un État-nation, mais qui demandent à constituer par exemple des nations dans un espace de souveraineté pluriel avec un pluralisme juridique, etc. Cette question n'arrive pas à fleurer en KNC, en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, en raison de la nature de l'État et du nationalisme français. On pourrait dire du colonialisme français et du nationalisme français. Je voulais juste ajouter cet élément-là, parce que ça permet de comprendre dans quelles contraintes, y compris en termes d'invention politique, cette société-là se trouve. Et l'autre, j'aime beaucoup cette idée de reprendre le flâneur en lui rappelant ou en rappelant ce qu'il peut être ou pas. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir que le flâneur, et je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'effectivement, la façon d'appartenir, en fait, n'est pas ouverte au choix pour les subalternes, pour les minoritaires et pour ceux qui arrivent, par exemple, les nouveaux arrivants. Ceux qui ne sont pas morts en Méditerranée, ceux qui ont survécu à la traversée, vont être contraints, en fait, d'entrer dans le régime à la fois qui est celui de la discipline et du contrôle et de répondre aux termes de l'intégration. Et là, je trouve que c'est intéressant de reprendre le parallèle entre la façon dont l'intégration européenne s'est faite dans une logique de l'absolue souveraineté, c'est-à-dire de l'inconditionnalité des modalités de fondation de l'Europe et d'organisation de l'Europe, qui est un faux continent, par ailleurs. Parce qu'en fait, ça n'existe pas, l'Europe, c'est l'extrême Asie, on pourrait dire, c'est l'extrême ouest de l'Asie, et c'est tout, ça n'est rien d'autre. Et pour autant, cette fiction fonctionne en imposant parallèlement, face à cette plénitude de l'intégration européenne qui se fait dans ces termes et comme elle l'entend, même si elle est sous la pression de multinationales et de pouvoirs extranationaux, elle se fait en imposant un régime d'intégration qui est un régime de soumission à toute une série de règles, à des obligations auxquelles on ne peut pas déroger, sauf à être considéré comme un ennemi de l'intérieur, comme une expression de l'altérité menaçante, et donc à être éradiqué d'une manière ou d'une autre, soit en étant renvoyé, soit en étant constitué comme, par exemple, la mouvance terroriste en Europe. Comme étant constitué voilà, à travers l'islamisme politique ou radical. Donc c'est cet aspect-là qui est intéressant. Et je finirai juste sur une note, sur ce que le flâneur peut faire mais que les autres ne peuvent pas faire. Il y a une réflexion que j'ai commencé à développer en écoutant des conversations en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, où en fait les Kanaks disent qu'il nous a été ôté par le colonisateur. C'est pas seulement notre souveraineté, notre terre, hein, parce qu'il y a eu spoliation, etc., c'est aussi la beauté et l'amour. Et c'est cela qu'il faut parvenir, que nous devons en fait réclamer et reprendre.
Alors, plusieurs remarques justement sur cette question de watering. Alors, les mers, elles sont dans l'imaginaire européen habitées par des monstres. Il y a les sirènes qui représentent un danger pour Ulysse. Mais c'est aussi l'histoire des naufrages, avec l'histoire de Robinson Crusoe, qui est quand même un des fondations de la pensée de comment survivre, avec l'image de Vendredi. La manière dont le naufrage occupe aussi la pensée européenne est importante. Bon, et c'est aussi la mer, c'était la liberté. Justement, partir sur les mers, c'était l'idée de la liberté. Et après, on a aussi, évidemment, se protéger de la mer, enfin, se protéger de ce qui vient de la mer ou du fleuve et qui représente un danger. Bon, donc, alors, vous parliez de Standing Rock, il y a aussi Flint, évidemment, avec l'eau polluée. Bon. Alors, le néolibéralisme, il a introduit l'idée de l'eau propre et de l'eau polluée en privatisant énormément l'eau. On ne peut plus voyager sans boire dans des bouteilles en plastique. C'est absolument global. C'est imposé. Moi, je me souviens d'aller au Salvador. Première année, on boit l'eau du robinet. Deux années plus tard, on ne peut plus la boire. C'est de l'eau en plastique. Et la moitié de la population, sinon la majorité, ne peut pas acheter ces bouteilles en plastique parce qu'elles sont trop chères. En plus, le plastique, production du pétrole, blablabla. Donc, on voit cette question, cette relation à l'eau. Et donc, une redistribution des inégalités dans l'accès à l'eau. Bon, ce n'est pas simplement les femmes qui font 8 km pour aller chercher l'eau, c'est même dans les villes. Et alors, les réponses à ça, c'est le capitalisme vert ou la catastrophe sustainable. Comment on dit sustainable en français ?
Durable.
Ah oui, merci. La catastrophe... Ah oui.
Pour ne pas dire que c'est dans le durable qui est critiqué.
D'accord. Donc, de cette approche d'une catastrophe soutenable. Donc, que on va pouvoir la soutenir. On va pouvoir trouver. Bon. Alors, quels sont les contre-récits ? Évidemment, c'est de repenser le commun, la question du commun, de la terre, de l'eau, mais aussi, évidemment, de cet nouvel espace qui s'appelle les algorithmes digitales et qui sont extrêmement importants dans la redistribution des inégalités. Alors, un autre point. La mer a permis à la France d'être la seconde puissance maritime dans le monde. Alors que si on regarde les côtes de la France, c'est grand comme ça. C'est pas sa côte atlantique et méditerranée qui lui donnerait cette place. C'est tout l'espace qu'elle gagne avec ce qu'on appelle les Outre-mer et qui la permet. Donc c'est un espace qui est maîtrisé par l'État. La France, c'est après les États-Unis, c'est la seconde puissance maritime mondiale. Ça n'a aucun sens. Mais ça lui donne un accès militaire, scientifique, géopolitique, linguistique, culturelle, à des tas d'espaces où elle n'a pas sa place. Elle peut siéger dans les organisations régionales de l'océan Indien, des Caraïbes, de l'Amérique du Sud, du Pacifique. Et l'État, alors notre point, c'est que l'État, il est à la fois néo-patriarcal et libéral. Et qu'on voit aujourd'hui une alliance entre le néolibéralisme et un néo-patriarcat extrêmement totalitaire, extrêmement violent. Le néolibéralisme, il propose un espace illimité. La planète, les espaces, l'univers, on ira partout. Hein. Et illimité autour aussi des ressources sont illimitées. Il y a conception que la nature, elle se renouvelle, on peut continuer à extraire sans fin. Et si on ne trouve pas, on ira encore plus profond, et on ira au fond des mers, et encore sous les mers, et c'est infini. Hein ? Les ressources et la force de travail, qui a commencé avec la mise en esclavage, et qui continue aussi avec cette fabrication de personnes jetables, de disposables, constamment. Là, c'est trop cher au Bangladesh, on se déplace en Cambodge, c'est trop cher au Cambodge, on va en Mozambique, enfin, etc. Alors que le néo-patriarcat, il limite l'espace, particulièrement pour les femmes. Elles n'ont pas le droit trop de circuler. Elles doivent circuler que dans un espace. Et donc, on est entre cette liberté contre la non-liberté, apparemment, mais que dans les deux, c'est des formes de discipline. Et donc, il faut étudier comment ces deux stratégies de discipline, finalement, s'organisent, s'articulent, pour en fait, qui sont apparemment contradictoires et qui, en fait, se soutiennent. Et donc, quelle serait une conception de la liberté dans d'un côté un espace illimité de liberté, de circulation, ce flâneur qui peut aller partout, et l'espace totalement limité qu'impose le néo-patriarcat à travers ses lois successives, l'organisation par le néolibéralisme de ville en enclave, de ville où on ne circule pas, les quartiers qui sont protégés et les quartiers où il y a des espaces verts, les quartiers où il n'y a pas d'espaces verts, les quartiers où il y a de l'eau propre, donc comment on repense la circulation dans des espaces qui sont à la fois apparemment illimités, la fameuse globalisation, je me promène dans le monde, je vais partout, je trouve les mêmes produits, les mêmes boutiques, et le rétrécissement de l'espace, on parlait aussi Nassira, avec le nombre de visas de plus en plus, le nombre de lois qui rétrécissent la circulation. Donc comment... Alors, pour une autre politique du watering, je pense que c'est à la fois une lutte anticapitaliste et antipatriarcale, donc antiraciste et antisexiste. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement anticapitaliste, c'est aussi certaines conceptions patriarcales, sexistes et raciales, et du capitalisme aussi, qui enferment. Et il faut, je pense, refaire cette histoire décoloniale des mers et des espaces liquides, qui est en fait là, hein, qui s'écrit ici et là, mais qui n'est pas encore entrée, je trouve, suffisamment dans la pensée décoloniale du capitalocène. C'est une conception encore de la terre, c'est une conception encore terrienne. Et comment. Alors évidemment, il y a les féminismes indigènes, tout ça. Et alors je pensais à la question de dignité dont parle Nassira, mais aussi la question du respect. Dignité et respect vont souvent ensemble. Donc quelles sont ces politiques de respect? Et en dernier aussi, je voudrais poser cette question de le néolibéralisme et ce néopatriarcat sont des politiques de violence systémique. Violence contre les femmes, contre les trans, contre les queers, contre les peuples indigènes, c'est la violence. C'est une politique de meurtre totale. Quelle est la politique non violente, mais non violente pas dans l'acception qu'on a pu comprendre jusqu'à présent, mais quelle est la politique opposée? C'est-à-dire, quelles seraient les politiques de protection? Les politiques de notre côté, quoi, de protection. Alors, dans les exemples que tu citais, Elisabeth, pour Standing Rock, le corps humain devient bouclier. Le corps humain fait bouclier contre la privatisation de l'eau. Et on voit aussi dans Flint, donc il y a une politique où le corps humain, qui est donc constitué d'eau, comme je disais, se met en bouclier, en protection. Et donc je me disais, quelles sont, si tu veux, les justement dans cette question que tu posais, d'identifier ces politiques de protection qui sont justement qui ne font pas recours à l'armée, à la police, qui font recours d'abord au corps humain, aussi par exemple contre la destruction des forêts ou en Amazonie, le corps ou en Palestine, le corps qui s'allonge devant les oliviers, en même temps, il y a aussi le recours à la loi aussi pour transformer ces espaces, comme la rivière en Nouvelle-Zélande. Tu as le nom, Barbara? Oui, mais tu as le nom? Non, tu n'as plus le nom. C'est quoi le nom? La rivière qui devient... Donc, c'est le développement de ces stratégies, qui sont des stratégies de protection, qui donc transforment aussi ces espaces liquides ou la question de l'eau en un acteur et l'eau devient... un citoyen, on pourrait dire, ou un sujet politique. Voilà, enfin, c'est un peu voilà, ce que ta question provoque dans ma tête.
You know, the Carbing, the film collective that I'm a part of, began when about 50 members of an extended family, indigenous family, found they left the violence of a community where they were born because of the divisions that liberal government placed in it. So it created violence and they became homeless. And it was exactly when the Australian government, this 2007, installed a new, we could, I would say late, I don't know, Gianto, I don't know what to call it. Anyways, neoliberal regime that withdrew all programs relating to indigenous lands and culture, and insisted that if indigenous people wanted infrastructural support for their communities or schools, then they had to open their lands to mining or tourism or private property. And it was the federal government, and they said, ah, land rights gave you all these properties. You are now very wealthy. You just refuse to actualize your wealth. And this regime came in right when these 50 indigenous extended family members became homeless, and they're sitting on the shores of their country, very precarious, and trying to figure out if there was a way to, because you have to have money, right? That's, yeah. How do they survive in this actual system without gutting their land, without engaging in extractive capitalism, because, or fracking, because they do have these lands. And over the course of, we're all sitting around over the course of trying to think this through, tourism, right? And we thought, green tourism. And someone said, can't sit on a boat all day going, telling the same damn story to the Belongs, to the Pedagog. And then one of the young kids said, hey, you know what? We'll just give them a cell phone. We'll put it on the cell phone. We'll download the story. So, and it's remote, so we'd have to have come up with software that connected to satellites, that being, GPS and stuff. And so as we went along, and remember, this was how to protect land from extractive capitalism. We'll use these green technologies. We were in a meeting, but we had to have backing to do the software or whatever. And one of the government business folks said, well, we need to know what your N is in terms of consumers. And we were all like, N is going to be huge because everyone soon is going to have a tablet and a cell phone with GPS on it. It was at that moment, not only, of course, we knew we were engaging in GPS, GIS is a military, we knew that part. But of course, it binged on us that to save this stretch of country, we were saying, yes, we can protect our country because the rare minerals that will fuel all these N equals a billion cell phones will be, and the whatever this is made out of, extracted from elsewhere, just off their coast. That's all. So as we're doing this and we're starting to talk about it, people say, see, that's why these kind of local projects don't work, right? Because they're too local. Yeah, right? And I forget who said this, honestly, on wherever we were, but it wasn't me, said, yeah, but if everyone took this point of view, it would jam the system. Right? If everyone said, yes, you can't mine on my land for this GPS, and don't worry, it's coming, no extraction could happen. Now, that actually won't happen, but it belies this, these local understandings are too small, right? Because that's one of the responses whenever, say, in the sacral waters of Madagascar, or the water holes that move across country that circuit spirits, right? Yeah. And mermaids who, you know, they're seductive, but they're not European mermaids. We have different mermaids. Whenever those are put forward, it's always too local. It's not engaging those global forces. And so That's one of the first things. The second is, of course, the flaneurs movement was always predicated on the contraction of movements of others. Mm-hmm. Right. Absolutely, right? The creation of clean spaces was absolutely always the gleaming cities of Brussels. It's so easy just to go back to that. You don't really need. Was predicated on the absolute sadism of what was going on. Not only yet, we know this, right? The ability to use the human shield, a human as a shield in Standing Rock, was met with $600,000 of repurposed military hardware.
Yeah.
Which doesn't mean, and again, for me, it's like, it's not, therefore it doesn't work. It's more, these are the moments in which you can see the lie of whatever we call this thing. And then the last thing I will say, which really is just, I hopefully just deepening what y'all are saying, is it's when we think about the Flaneur movement was a movement of supposedly clean bodies who were clean because they infilthed others into zones that are clean because they've infilthed, that's not a word, but made filthy others. The response of the Flaneur, but the Flaneur is just such a, it's something we need to really rethink because of our love of Benjamin. But when you, in Flint, the response was when they were forced to confront it. You know, these government neoliberals, they didn't, come to see it. They were forced by, forced. When they are finally forced to say, you are infilthing certain people, what's their response? Their response is, and we began to talk about this, that's so sad. We will remove the toxins. We will replace them with good infrastructure or whatever. And then we'll restore you to. No, we will restore you to. What you never hear, and this is what you're thinking of, the seas and the movements and who can move and what conditions and whose water is drinkable and et cetera, is there's never discussion of remove to where. Because we know it will just be concentrated more in another place, like our GPS project. Replace with what from where? And we know where, right? Which will destroy the thing. And restore, right? Restore, for me, is the most important, because restore is where late liberalism or Gianto power really is so entrenched. It says, restore to me, to my level, because I refuse to drink my own poison. All right. And this is where, you know, I've said before, where a certain politics of turning the tap, it's like, we can't get rid of this shit, right? But who gets to decide which direction it is flowing?
Il y a juste une chose que vous avez dite qui lancer une idée donc demander aux aborigènes ouvrez vos terres pour les mines, le tourisme et d'autres choses. Et qui revient un petit peu à cette question de restaurer, c'est-à-dire l'apparente contradiction entre la propriété privée et le patrimoine de l'humanité. Le patrimoine de l'humanité, mais ça appartient à tout le monde. Vous ne pouvez pas garder ces beautés pour vous. Ces beautés doivent être offertes aussi au reste du monde. Transformer vos endroits en parcs nationaux, en fait des petits villages touristiques où vous ferez des petites danses folkloriques. Et cette notion de patrimoine de l'humanité, de ce qui appartiendrait à toute l'humanité, est une autre... une autre manière de privatiser ce patrimoine, c'est-à-dire où l'humanité est reprivatisée et de ce que vous disiez restaurée, c'est-à-dire on restaure à tous, soi-disant, ce qui appartiendrait qu'à une communauté, mais enfin je sais pas moi, c'est 50 000 personnes là. Hein, c'est 50 000 personnes, et que comment on fait avec 50 000 personnes quand tu peux avoir tant de gens qui en profiteraient. Donc pourquoi tu prives ? Pourquoi tu prives ? Au nom de quoi tu priverais l'humanité d'avoir accès à ta richesse ? Et donc là, ça me faisait penser, tu vois, dans cet extractivisme, dans la question de l'extractivisme, il y a l'extractivisme visible. L'extractivisme visible qu'on voit dans les mines, mais cet extractivisme plus intangible, on pourrait dire, plus immatériel, qui serait de ces richesses intangibles qui ne peuvent pas rester privées. Et donc, cette tension entre propriété privée et soi-disant patrimoine de l'humanité, qui s'entraîne énormément, surtout autour de l'industrie du tourisme, qui est une industrie dévastatrice, absolument dévastatrice et d'appropriation, mais qui a à voir avec la liberté et le flâneur. Mais pourquoi je ne peux pas me promener pour aller voir ces beautés?
You know, and one of the things that as we were thinking of doing this, we were the GPS, the tourist thing. We thought, how can we code certain kinds of social modes? And we thought, the people that became the collective were like, we believe that you don't, to know something, you have to return and return, so it becomes you and you become it. And so we will order the information based on how many times one returns. And then we thought, the only people that got money, i.e. money for boats, money for petrol, money for cars to get the boats there, money to have for food while you're thing, are white people, right? So here they would be getting all the wealth of knowledge and fresh air and the whole score by using our... So the contradictions are superb and profound, and it's part of why last night we don't translate, even to our, sometimes to our detriment. Yeah, why? So.
Excuse me.
Do
you
want to
say quelque chose?
Just one now. Actually, I won't be able to show what I was, but I had an extract of a film that was shot in New Caledonia, in an island, where you had this kind of folklore dances taking place with Australian tourists around. You know, they were flâneurs, obviously. And at the same time, you could notice that they didn't notice the dancers. It's like, you know, they were just there. And the dancers would not really wholeheartedly express the depth of the dance that they were performers. So on both sides, it was like, you know, you're not supposed to be genuine about the situation. I mean, the dancers, the Kanak dancers know that. And so they kind of, you know, it's not serious really for them. They don't take it seriously. Yeah. So that's the whole point. Yeah. And I said, because we are here, because I am watching, you know, surrounded by Australian tourists, it's obviously why there is an alteration of what they are doing. We are the, you know, we are the ones who are altering the whole situation, and we should not be able to watch that. And at the same time, the Australians are just, you know, getting red because the sun is really strong, and so they are going to ruin the waters because they are putting all this kind of cream on them, and even though they are told not to, but they do it anyways. And it's all about that. It's about the destruction that is infinitesimal. It's like a very low level, and takes place every week on this beach, because you have to, all this wealth has to be shared, but actually it's not, and especially not for the people who belong to this place.
Nassira, juste par rapport à ce que tu viens de raconter, il y a quelques années à Lifou, j'arrive sur l'île et il y avait une longue, longue file de ces animateurs de tous ces tours avec un immense bateau australien. Et les femmes kanak de Lifou étaient installées à une petite table. Elles ne faisaient pas de danse là. Et je vois chaque animateur poser une pile de passeports et elles prennent un tampon et elles tamponnent chaque passeport. Et c'était 5 euros par passeport. Voilà. Et alors, donc, je leur demande, ah, mais c'est extraordinaire, donc maintenant, c'est vous qui mettez les visas pour les Australiens. Ils disent, non, on a fait le tampon parce que finalement, les touristes sont contents. Et voilà, et donc, toutes les semaines, il y avait ce bateau qui arrivait et elle récupérait cet argent pour la cagnotte des femmes. Mais si je peux aussi, tu veux me passer le film ? J'aurais voulu réagir sur l'histoire de l'océan qui n'est pas qu'un cimetière. Et quelles sont peut-être les lignes à tirer pour le watering et de l'histoire coloniale et du futur. Je pense à un roman extraordinaire d'un auteur algérien, Ben Malek, L'enfant du peuple ancien, qui raconte l'histoire à l'époque coloniale, quand on allait chercher des ossements des peuples qu'on avait massacrés, et donc notamment en Tasmanie, on les ramenait dans les musées partout dans le monde. Et donc le roman commence avec l'histoire d'un petit garçon qui se cache sur un bateau qui ramène les ossements pour les musées européens. Il se cache avec les ossements de ses parents qui ont été tués. Et le bateau fait escale en Nouvelle-Calédonie, où il va chercher deux bagnards qui se sont enfuis du bagne de Nouvelle-Calédonie. Et ces deux bagnards, c'est un kabyle et une communarde. Et les deux se retrouvent sur le bateau. La nuit, ils entendent du bruit. Et en fait, dans la cale, ils découvrent le petit garçon caché dans la boîte à ossements des parents. Et ensuite, je ne vous raconte pas, mais ils vont faire une alliance, tous les trois, et ils vont débarquer en Australie. Et la deuxième partie du roman raconte ce qui se passe en Australie. Mais la deuxième histoire, qui est aussi liée à cette histoire des océans, c'est en Australie, en 1912, il y a eu un naufrage d'un bateau qui s'appelait le Kumbana, et qui déportait donc des aborigènes du Nord qui étaient arrêtés, les rebelles, vers l'île de Rottnest Island, donc à 2000 km au sud, mais aussi qui enlevait les enfants métis, et qui les déportait aussi, plus au Nord, et les lépreux. Et ce naufrage, on n'a jamais retrouvé le bateau. Mais il y a un aborigène qui a rêvé un message des esprits qui était noyé sur ce bateau. Et il a rêvé une cérémonie qui s'appelle le Tchuluru et qui, pendant 60 ans, a voyagé tout le long de la côte nord-ouest, donc sur 3000 km jusque dans le désert où elle est arrivée en 1979, où j'ai eu la chance de la voir. Et c'était une cérémonie, en fait, qui inciter les gens à résister à la colonisation. Et dans les années 90, quand il y a eu la commission royale sur les générations volées, donc tous ces enfants qui avaient été enlevés entre 1905 et les années 1970, la cérémonie s'est arrêtée. Elle n'a plus voyagé parce qu'au cœur de la cérémonie, il y avait un rôle rituel qui s'appelait les middlemen et qui essayait de réfléchir à tous ces effets de la colonisation et du métissage. Mais cette année, dans le nord-ouest de l'Australie, il y a une fédération de 33 peuples de langues différentes qui s'appelle le Kimberley Aboriginal and Law Council, Culture Council. Ils ont, les anciens, donc de à peu près une quarantaine de langues différentes, ont décidé tous, alors qu'ils ont un festival tous les deux ans où ils promeuvent leur culture, puisque ça s'appelle comme ça maintenant, et leur langue, où ils discutent de choses politiques pour résister à tout ce dont tu parles, Elisabeth, ils ont décidé tous de retravailler sur le Tchuluru. Et donc, en 2020, en septembre 2020, ils veulent se réunir et ainsi inviter des gens du désert, et donc qui sont au-delà de la région du Kimberley, pour refaire ensemble le Tchuluru. Et donc, juste la dernière chose, c'est par rapport à l'histoire du patrimoine aujourd'hui. Vous savez qu'en France, il y a le groupe de Sébastien Thierry, qui est assez actif avec les migrants à la chapelle et d'autres choses, qui essaye de faire reconnaître au patrimoine mondial de l'humanité la notion d'hospitalité. Voilà, ça c'est une démarche. Alors on peut être pour ou contre, mais peut-être que c'était la discussion qu'on avait aussi hier avec les histoires du mouvement pour les droits de la nature, c'est qu'aujourd'hui, tous ces dispositifs transnationaux permettent de faire pression, que ça aboutisse ou pas. Mais ça donne c'est des stratégies qui donnent de nouveaux outils, de nouvelles armes pour résister, pour faire des choses.
Je pensais à ce que tu disais, Elisabeth, en commençant, que le néolibéralisme et le libéralisme sont des colonial artifacts. Et donc, je voulais étendre un peu notre discussion parce qu'en fait, ça touche le monde entier. C'est-à-dire que l'Occident, enfin, l'occidentalisme n'a plus autant de force, mais le néolibéralisme a une très grande force. On le voit adopté par des pays et des gouvernements en Inde ou en Chine qui sont totalement anti-Occident, mais qui sont totalement pour le néolibéralisme. Donc, si on part de ta proposition, cette histoire que décrit Nassira et que tu décris aussi Barbara, ne se passe plus simplement entre blancs et non-blancs, mais se passe à l'intérieur même. On le sait, il y a eu des dénonciations en Inde de transformation de peuples à l'intérieur en truc folklorique, je ne sais pas comment on dit. Pareil en Thaïlande, en Chine, c'est plus que incroyable. Donc comment on passe aujourd'hui à notre analyse et qu'on l'étend à ce néolibéralisme comme colonial artefact, et qu'on continue évidemment à fouiller le passé colonial européen, c'est-à-dire qu'on est dans deux temporalités, à la fois de voir ce qui s'est, de réparer le passé, si on peut dire, ou de le restaurer, de voir ce que ça dit encore pour aujourd'hui, et de ce qui se passe aujourd'hui, qui n'est plus du tout dans ce cadre-là, c'est pas l'Europe, mais c'est le monde. Je veux dire, ça se passe, le Brésil, avec les Amérindiens, l'Équateur, enfin, je veux dire, les exemples sont sans fin, mais absolument sans fin, sur le continent africain, mais ils sont très visibles aujourd'hui en Inde ou en Chine, qui sont des gouvernements extrêmement néolibéraux et extrêmement néopatriarcaux. Donc, comment on va étendre notre analyse, qui continue un tout petit peu à rester dans un cadre spatial et temporel, à ce qui se passe, où évidemment on n'est plus simplement de blancs à indigènes, comme en Australie ou en France, évidemment la France c'est incroyable, mais qu'on voit dans des puissances, vraiment des puissances au sens pas seulement économique, mais aussi culturel, parce qu'elles diffusent, je veux dire, elles diffusent des pensées, elles diffusent des idéologies. Quand on est en Chine ou en Inde, l'Europe, c'est très périphérique. C'est extrêmement périphérique. Je veux dire, c'est... Oui, tu vois?
Par la méditation et par la route de la soie.
Yeah, you know, if we commence with the idea that, say, liberalism, just loosely, is a colonial artifact, then we know colonialism, or one way of understanding colonialism was the governance of difference, for the governance of, let's say, markets pre-capital markets. Okay. So liberalism comes out of that it's a mode, a kind of supra mode of an initial governance of difference for governance of markets, which was all about circulation, who could see everything we've been saying. It swells itself like a tick, and that tick is Europe first. It's, and I think Dick, it's like sucking the blood, yeah. But within Europe, that governance of difference and governance of markets reaches a certain kind of problem as there's the insurrection of the anti-colonial movement, and then we get what I call late liberalism in the 60s, 70s, in which is, oh shit, okay, we have to reorganize the governance of difference through liberal recognition, reorganization of markets, through a kind of Hayekian neoliberalism, because nobody is actually. But now you're exactly right, is that one, the new kind of problematic is that the governance of difference is under crisis because Gianto power doesn't work anymore. And Europe, the liberal governance, the form of government is no longer hegemonic, or we don't know. It's like that moment in which empire and nationalism were fighting about which would be the dominant form. And now it's like, do you need democracy to have the governance of markets? No. Poof, no, 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 you don't. I remember being in Istanbul in this conference, and it was back in, 2000 and something. And you had these German, one of the grim guys who was redoing the German constitution, because I thought there was going to be a European, that everybody was going to, you know, agree. And he was doing that, God bless, he was doing that German thing. It was like, first you have the market, and that inevitably leads to the democracy, and that leads to the social justice. And there were some of us who were like, what? He said, it always has been, it always will be. It is the law. And there's no other example. So, me, Chica, I say, well, what about Singapore? Too small. Too small. What about China? Ah, no, not too big. This was early 2000. Well, we just patient because it will turn into democracy. Because there was such a... And we're at the end of that, and we see that colonialism has spawned, I would still say colonial, has spawned this morphing mutant tick. Yeah. So that the collapse of the liberal governance in the sense of democracy and the continuation, for me, that was always what liberalism was anyways.
Yes.
Yeah. And that's what you have been saying. That's what Cesare is saying. That's what we have all been saying for a very long time. So I don't know.
No.
I guess that's what, yeah. I know, Olivia. Okay.
Yeah. So this is why, for me, the strengths of the colonial thought or the colonial root of political thinking, of sovereignty, of what constitutes a state, of what constitutes a nation, of what constitutes even the market, is also
and
some...
Democracy.
And democracy. Is really what is a challenge, because we see it being morphed in China, in India, without now the occupation of this country. Yeah. I mean, they are totally... And very... I mean, when you look... I mean, when you read at the BJP rhetoric... Totally anti-West.
Oh, yeah.
Duterte in the Philippines,
yeah.
Of course, China. But even a lot. I mean, it's more and more, in fact. So this is a very interesting morphing that we understand, but that we have also to take into account in our critique. So we are not... we don't remain within Europe. I mean, we don't remain colonized by Europe in our mind.
Je voudrais rajouter juste inviter quelqu'un. Je voudrais juste inviter quelqu'un, en fait, dans cette discussion, très brièvement, en fait. Mais quand Aníbal Quijano commence dans les années 60 à s'interroger, à faire une étude sociologique sur l'évolution, effectivement, sur comment la décolonisation, entre guillemets, évidemment, du Pérou, en fait, se retrouve à transformer le mode, sur une forme coloniale, la nouvelle nation qui émerge, en fait, et qui propose donc cette idée d'associer colonialité et rationalité. Je pense qu'il fait cette extension qu'on est en train de faire en disant, grosso modo, en fait, il y a vraiment quelque chose qui va au-delà de l'aspect économique. C'est vraiment que la colonialité, elle est associée à la rationalité occidentale comme manière d'organiser le rapport au monde. Et que c'est à partir de là, effectivement, qu'on lui dit, mais en fait, l'espace péruvien se retrouve redessiné selon les principes de la rationalité occidentale qui est intrinsèquement, en fait, coloniale. Et cette extension-là, il l'a fait de manière assez forte et radicale. Et je crois que c'est un levier analytique assez fort et politiquement assez fort aujourd'hui. C'est un fil qu'on peut encore tirer, je crois.
Oui, je voulais interpeller à un moment donné la Syrah, et puis du coup, on est parti dans une autre échelle. Mais à la fois, c'est intéressant parce qu'on se rend compte, et c'est déjà le cas hier, qu'on est forcé d'essayer sans cesse de naviguer entre des échelles. Là, on est d'un coup très grand, là. En quelques minutes, c'était intéressant de voir comment la conversation partait de la question du flâneur, donc presque de l'individu. D'un coup, et on se rend bien compte que c'est dans cette circulation entre les échelles permanentes que les solutions se trouvent. Et là, moi, je voulais revenir à l'échelle de l'individu parce que Nacera a fait une présentation qui termine sur... Et moi, je ne sais pas trop quoi faire de ça. Donc là, ça renvoie à la question de nos subjectivités et notre possibilité, nos puissances d'agir individuelles. C'est évidemment une question qui va être liée à tout ce qu'on a dit après, c'est-à-dire c'est pas soi, et là c'est une espèce de détachement de l'idée même de construction du soi occidental, c'est un peu une espèce de soi comme machine, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire avec ce corps-là, et est-ce que ce corps-là, il est impossible de le dissocier d'une forme de production d'identité, quoi. Et ce qui est vraiment l'impossibilité occidentale, mais aussi une impasse américaine, y compris noire, africaine-américaine. Corps égale identité, point. Est-ce que je peux, et là, moi, je ne vais pas du côté du flâneur de Benjamin, je vais écouter un petit peu du type qui traîne, quoi, dans la banlieue de Londres, dans la banlieue de Paris, dans les... voilà, en fait, on a le zonard. Celui qui zone. Et donc, lui, il n'est pas tout à fait autorisé à flâner. Il zone depuis l'absence de travail, l'absence de moyens. Il a été longtemps un homme, donc une espèce de masculinité un peu interdite. Il n'a pas de copine. Il n'a pas de boulot. Mais il zone. Et en tant que personne qui zone, il est traversé par quelque chose. Et donc, pour moi, le flâneur, tel que décrit comme touriste, n'est pas traversé, justement. Il met tout dans la question d'une distance visuelle des choses. Et donc, il y a la notion de... J'ai envie de venir sur une notion qui est très sensible, mais vous comprendrez qu'on peut la penser de manière un peu après, qui est la question, est-ce qu'on peut se penser dans une certaine peau ? La peau comme élément de filtrage par ce quoi on est traversé ou pas traversé. Françoise parle des formes de corps comme résistance, donc nécessité de pouvoir se penser et se performer comme dur, y compris en étant un dur liquide. Et d'autre part, à des moments donnés, se laisser traverser, comme je trouve à proposer Nassira, sans tout à fait savoir en fait ce qu'on va réussir à faire de ce qui nous a traversé, comme quelqu'un qui se balade à l'endroit où il ou elle ne doit pas être, les manifestations, dedans. On n'a pas le droit d'être là, mais en fait, on a le droit d'être traversé par des choses. Donc peut-être s'absenter d'un être-là solide pour passer à un être-là traversé par. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne suis pas ici, je ne fais que passer. Ce qui était pour moi, en fait, une des promesses, je trouve, de la culture queer. Je ne m'arrête pas. Je suis déjà... La saisie policière devient impossible parce que le corps ne s'arrête pas avant qu'on ait le temps de l'identifier. Qu'est-ce que c'est ? It's queer, dans le sens où ça échappe aux catégories déjà existantes. C'est toujours en train de bouger. Donc ça, c'était la chose, moi, qui m'intéressait. Et après, je voulais parler pour Nassira. Pour moi, après, c'est peut-être penser, au niveau même du corps, le corps comme espace de recomposition de ce qui a été dispersé pour qu'on ne le reconnaisse pas comme lié, ce que tu as fait avec la Nouvelle-Calédonie ici, l'Algérie ici, les Gilets jaunes, c'est-à-dire le corps comme endroit où apparaît une forme de lien qui a été volontairement en fait, dispersé, parce qu'il faut se rappeler, on l'a un peu dit déjà, que le geste colonial est aussi un geste de destruction des filiations, destruction des noms, et donc une volonté que les choses ne puissent plus se reconnaître les unes les autres en dehors d'une espèce d'autorité qui va être l'autorité de l'Empire, quoi, qui dit « nous, on est la seule chose en commun, la seule langue en commun, etc. » Et donc, je trouve qu'avec Nassira, il y a une proposition de se dire « est-ce qu'on peut recomposer des choses qui ont l'air de rien avoir à voir les unes avec les autres, mais en réalité qui sont un paysage qui raconte quelque chose et qui est peut-être la composition qu'on a besoin de faire aussi politiquement, c'est-à-dire des sud au sud, des périphéries aux périphéries. Donc, encore un peu, un peu plus affecté que le flâneur, je pense, un peu plus, et un peu moins sous contrôle parce qu'on est toujours traversé par un espèce d'excès qui est un peu plus que ce qu'on voudrait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des violences aussi qui nous atteignent et qu'on n'arrive pas à savoir si on doit les laisser passer ou si on doit les retenir ou comment... Mais voilà, donc ce corps, peut-être, indexer le flâneur à une chose plus dure et puis rejoindre ce que vous disiez en disant l'impossibilité de circuler, elle n'est pas totale non plus. Le flâneur, c'est le niveau social où on est tranquille partout. D'autres gens ne sont pas tranquilles partout, mais flânent, traînent. Moi, je trouve que l'identité des années 80 en France, qui m'a beaucoup traversé, c'est quand même le fait de venir, ce qu'on disait nous à l'époque de la banlieue, de venir zoner à Paris. Et zoner, ça voulait dire quoi ? T'as pas d'argent, tu as accès à rien, t'as pas d'accès relationnel, t'as pas d'accès affectif, mais tu zones dans la ville. C'est-à-dire que tu es traversé par tout ce que la ville fait, et tu construis une espèce d'affect de zonard, c'est-à-dire de quelqu'un qui reçoit un ensemble d'images et qui compose une forme d'identité un peu instable. Et je trouve qu'on a cette figure-là quand même qui est un peu plus abrasive, je crois, que le flâneur, un peu moins légère. Voilà.
Oui, mais ta circulation, elle est quand même très genrée. Je veux dire, c'est quand même aussi très... je comprends tout à fait ce que tu dis, mais je suis quand même frappée aujourd'hui par les excès de violence contre les femmes, les trans, les queers. C'est un excès de violence, d'interdiction, justement, de circulation. C'est frappant. Et comment comprendre cet excès de violence ? Il y a toujours eu de la violence, hein, on sait pas, c'est pas maintenant que ça commence, mais elle est même revendiquée. Elle est revendiquée dans des discours publics. Il y a des leaders politiques qui appellent au viol et au meurtre. Je veux dire, ça fait partie maintenant. Et donc, comment on comprend c'est ce que j'essayais de dire, c'est-à-dire, si tu veux, d'un côté, le néolibéralisme qui dit « circulez, le monde est à vous », et de l'autre côté, un néopatriarcat qui réduit l'espace de circulation fortement autour de la question des femmes, enfin des autres. Je viens de lire un livre sur ce qui se passe en Irak aujourd'hui pour les femmes, par Zahra Ali, et c'est absolument passionnant de voir comment, en fait, elle dit que la guerre a totalement restreint l'espace public pour les femmes et l'après-guerre. Et comment donc aujourd'hui, ces guerres partout redessinent aussi ces réseaux de circulation dont tu parles, tu vois, et qui arrive à passer à travers les grilles ou les je sais pas comment on dit, enfin les filets, pardon. Et donc je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, il n'y a pas une circulation que pour certains corps, d'autres corps circulent, mais on les voit moins, voilà. Mais à la fois, comment ces circulations sont comment la militarisation, surtout la militarisation de l'espace, et qui est quand même un fait nouveau. Je veux dire, à Paris, on ne voyait pas autant de soldats armés dans les rues il y a quoi, 15 ans. Je veux dire, et c'est devenu banal. Je veux dire, on passe à côté d'eux et on ne les voit même plus. Et ça me frappe aussi, si tu veux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui devient invisible ? La naturalisation de corps armés, mais armés au sens armé, pas c'est pas une métaphore, dans l'espace, et comment donc dans l'analyse plus fine que tu souhaites, comment on redessinerait justement toutes ces corps, à la fois les corps armés solides, durs, d'autres corps qui se font sans bouclier, d'autres corps qui circulent, d'autres corps, etc. Effectivement, là, ça demande une plus grande complexification de ces circulations.
C'est juste pour continuer, en fait, parce que tout ça, évidemment, ça nous fait penser à Israël-Palestine, puisque c'est lié avec la question de l'eau. C'est l'eau qui est là, qui est extraite des territoires qui ont de l'eau, pour que ce régime militaire puisse permettre la non-circulation de Gaza, des territoires occupés. C'est en fait un cas extrême, en fait, qui est lié à exactement ça. Mais il y a aussi une autre histoire que je n'arrête pas à penser depuis que ce débat est tellement riche, et je vous vraiment remercie de tout mon cœur pour ça. Je n'arrête pas à penser à cette très importante histoire qui revient beaucoup aussi aujourd'hui, pas seulement par les historiens de jeune génération, mais aussi par les artistes. C'est l'histoire des pays non alignés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, moi, je viens de l'ancienne Yougoslavie et je me rappelle de cette histoire où Tito, il forme, après la résistance de Deuxième Guerre mondiale, il forme un nouvel pays. Et qu'est-ce qu'il fait ? Première chose, il embarque quelques années après, il laisse le pays dans les mains des gens qui lui font confiance. Il embarque sur un bateau et il va construire, il va visiter les pays où on ne circule pas forcément de manière de l'Ouest. Il va s'arrêter, il va parler, il va construire avec... En Inde, en Indonésie, il va construire l'idée de non-aligné. Et je trouve qu'il y a un potentiel qui est ensuite lié ça avec la lutte anticoloniale, d'un côté. la lutte tricontinentale, qui était aussi très importante. Mais tout ça, ça se rejoint avec ces luttes qui sont en fait les luttes anti-oppression qui lient ces corps aujourd'hui. Et je trouve que, de nouveau, l'eau, le bateau qui est allé d'un point à l'autre dans cette histoire, ça c'est le début des années 50, il faut revisiter ça. Il faut se inspirer pour penser aujourd'hui l'Algérie, pour penser aujourd'hui Soudan, Palestine, Israël, cette énorme catastrophe qui est de nouveau retombée juste il y a quelques jours. Donc en fait, et justement, donc cette histoire de l'eau qui est là comme de nouveau peut-être cet imaginaire de prendre cette liberté, de la intérioriser au même moment. En pensant, on retourne vers cette eau. Voilà, donc je vous remercie, c'était juste pour ça.
I'm sorry, I'm just going to ask a question because it's on the same subject. So I was thinking in what you're saying about the flaneur and the tourist. In my head, I'm thinking settlers, and I was just wondering where you place settler colonialism in this story. You mentioned when you talk about Australian settlers, in my mind, I automatically corrected with, Australian tourists, I corrected to Australian settlers. I think that settler colonialism might give a different dimension to people, in this case, whiteness, to this discussion on flaneur. I also think that maybe the spatial time frame, I mean, we are reflecting back, but we can also think, since we're in France, I think of, because you mentioned Israel-Palestine, I think of French settlers that just landed yesterday on Tel Aviv and last week's, who come with this idea of, I am French, but I am also entitled to this land, and I come with an ideology of a settler colonial mindset. So you see that in the young Palestinian reframing of the terminology, they are no longer even called settler, they're called boat invading white settlers, because that's how initially they arrived to Palestine in 1948. Today they land in plains. So also the idea of those settlers just arriving with this mentality. And I was wondering where you place that in terms of flaneuring on this planet. The same thing goes for the Australian settlers that go and look at this folkloric dances, etc., etc. And just, I was your student at Columbia.
Oh. So, you know, I think a lot about that. You know, I think the way in which that way of understanding colonialism has emerged as a powerful connecting discourse across places. I do think that the flaneur need not settle. And indeed, settle is one of the rights. It doesn't even feel like a right. It's just like one of the things that a certain kind of body can do, right? And within this always arranging hierarchy of other bodies. Right. So of course, you know, the gendered aspect, the sexual aspect of it. Right. So although, of course, yes, settler colonialism and what kind of possibilities of opening and thinking, but I am loath to make it the everything category, because I believe that it is an aspect of the forms of circulation that we've, and modes of circulation we've been talking about that emerged. There was extractive markets need not have anyone circulate, especially now when everything is mechanized. We see these huge mines that give a bump to, like, the, again, in Australia and Canada and the US and South Africa, mining is in parts of South America. Mining is central to economy. Australia
didn't have the Great Recession because of mining. Canada didn't have the Great Recession. Their monetary value went up through the roof because of mining, because China was trying to keep its floating, so it just imported all this crap. And the state can sell mining because initially it has this great bump in employment. But it's a bump because it's all mechanized. When you finally have these new mines up, these mega mines, you only need about four people to sit. It's like in those big shipping container boats. They're massive, but there's only like five people on that boat, right? And that's the digitalization of everything. I think settler colonial is great, but I don't think we should be reaching it for the answer to every modality of this form of extraction and.
Nassira voulait répondre. Je veux juste dire quelque chose de très rapide. Oui, Israël-Palestine, c'est extrêmement important. D'une part, ça me fait penser aussi, on se souvient que les Blancs aux États-Unis empoisonnaient l'eau pour combattre les Amérindiens. Donc il y a l'eau, et depuis très très longtemps, la question d'empoisonner l'eau contre l'ennemi est une vieille stratégie militaire. Donc ça c'est une chose, et qu'effectivement, comme tu le disais Natacha, il ne faut pas oublier le rôle déjà pour la Nouvelle-Calédonie, les communards et les insurgés algériens sont transportés par les mêmes bateaux, et la tête d'Ataï, l'insurgé, le chef, il sera rapporté par bateau en France. Donc et effectivement la question du colon est importante, mais moi ce que je voulais aussi c'est de dire en suivant Elisabeth, c'est-à-dire que la diffusion même de ce terme au-delà même du monde occidental, c'est-à-dire comment il y a quelque chose dans le développement économique qui peut se retirer de la question occidentale, qui est liée aux colons, à coloniser. Donc comment même l'idée d'état-nation et de développement se sont fondés sur coloniser et colons. Donc, juste ça, on peut le voir pour des pays d'Amérique du Sud aussi. Et donc, je trouve ça important, et puisque disait Natacha, de retrouver aussi ces histoires, évidemment, parce que beaucoup d'idées aussi, ce n'est pas. J'ai parlé du fait que le bateau a porté. Mais ont apporté aussi des idées. Énormément d'idées révolutionnaires ont circulé par les marins. Par les bateaux, ou alors il y a l'histoire que Marcus Rediker et Peter Linnebaugh ont émergé sur la question des pirates. Mais ensuite, au XXe siècle, c'est vraiment les idées révolutionnaires, les journaux révolutionnaires vont circuler par les bateaux, par les marins. Et ça, c'est toute une histoire qui est peu connue, qui est effectivement à extraire. Mais moi, je le sais, par exemple, pour l'île de la Réunion, des journaux révolutionnaires arrivaient par les marins. Parce que c'est pas l'État français qui allait autoriser, puisque justement, donc, ça contournait la censure. Donc il y a aussi cette histoire d'une mer révolutionnaire, de révolution, les idées révolutionnaires qui courent sur la surface des mers, qui n'ont pas justement, où les frontières seront moins surveillées. Alors il y a aussi la drogue, etc. Mais enfin bon, ces idées révolutionnaires sont extrêmement importantes, les pèlerinages qui se font par la mer, enfin toute notre circulation qui est totalement différente, et même dans la globalisation aujourd'hui, il y a des grands containers, mais on sait que, par exemple, à Dubaï, ce sont des communautés d'Africains qui se regroupent à plusieurs pour remplir un container, parce qu'à tout seul, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas des grandes compagnies. Et ce container, ensuite, qui appartient donc à toute une tontine qui s'est faite, va aller en Afrique et être redistribué. Donc il y a toujours aussi une économie souterraine du monde maritime, dont je n'ai pas parlé, mais qui évidemment existe.
Merci. Je vais essayer de reprendre les différents éléments, peut-être effectivement en revenant à hauteur d'individu, c'est-à-dire dans cette espèce d'expérience infra ou presque imperceptible, en fait. Et pour reprendre les réflexions que tu développais, Olivier, il me semble, en fait, j'ai essayé à un moment donné de prendre, ou plutôt d'accueillir le moment militant et activiste parce qu'il devient inévitable, en fait, et de réfléchir à la façon dont il fallait le vivre dans son corps, en fait. Et je me suis attelée à essayer de réfléchir à des subalternatives, c'est-à-dire une façon de forger les alternatives, mais par le bas et sans moyens, d'une certaine manière, et y compris d'ailleurs en admettant l'idée qu'il n'y a pas de puissance d'agir d'abord, et qu'elle n'est pas donnée et qu'il va falloir l'arracher. Mais cette puissance d'agir, en fait, et je pense que c'est quelque chose qui traverse un peu tous les théâtres de vie que j'ai traversés au fil des images, elle se fait toujours en acceptant de renoncer à sa propre puissance. C'est-à-dire qu'il y a, c'est une question qui avait été évoquée hier, je crois, la question du renoncement. Ça ne peut pas se faire en voulant imposer sa toute puissance ou en tout cas sa seule puissance d'agir en tant qu'individu, y compris motivé, en tant que militante ou en tant qu'activiste. Il y a une part à laquelle qu'il faut céder au collectif et qu'il faut céder aussi à toutes les possibilités, les impossibilités qui vont surgir. Et ça, c'est un enjeu très compliqué à assumer, en fait, du point de vue des formes d'activisme. Dans les moments où on n'existe plus seul, et peut-être même pas du tout, dans la lutte et dans les formes de résistance, et c'est la condition pour que ces résistances puissent exister. Et là, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre et à redécouvrir, en fait, de ces forces telluriques, de ces forces souterraines, de ces manières d'être, qui étaient d'ailleurs présentes souvent dans les récits de ce qu'on appelle les familles immigrées, avec plein de guillemets, qui n'ont été immigrées que dans le regard de stato-national, mais qui, en fait, sont bien autre chose. Et ces récits-là, justement, qui forgent une capacité d'endurance, de persistance, en fait, à travers des récits anodins, des légendes. Tout ça, en fait, a beaucoup habité, beaucoup plus qu'on le dit, notamment les quartiers populaires depuis longtemps, les cités. Et je pense que c'est à partir de ça, d'ailleurs, que... Alors moi, je suis tout à fait... ça résonne pour moi ce que tu dis sur le fait de circuler, sur le fait d'aller au centre-ville, sur le fait de, voilà, d'être un zonard ou... en fait, d'être un... Je réfléchissais à une autre expression qui serait un traîneur. Tu vois, l'autre du flâneur, c'est le traîneur aussi. Avec tout ce que tu peux dire sur la traîne, qui est aussi un filet, enfin, tu vois. Là, il y a une sorte d'espace un peu sémantique qui peut s'ouvrir. Et de ce point de vue-là, effectivement, je pense que j'ai pu observer autant une expérience de garçon que de fille, en fait. Et il me semble que les uns et les autres partaient à l'assaut de quelque chose. Alors souvent, ils se fracassaient sur ce vers quoi ils partaient à l'assaut. Mais il y avait bien quelque chose de cet ordre-là, et ça continue à être le cas. C'est cette forme de conquête, de reconquête. Alors, sans que ce soit forcément un langage guerrier, et que ce soit certainement pas un langage colonial, mais il y a bien quelque chose à reconquérir de soi dans le fait de s'imposer là où on n'est pas attendu et là où on n'est pas le bienvenu ou la bienvenue. Donc, je pense qu'il y a, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, des recompositions alternatives peuvent se jouer et donc constituer ces subalternatives en réunissant ce qui est désuni, en réassemblant ce qui est dispersé, en inventant donc des formes de y compris de bazar, quoi, de fatras, des choses qui dont on ne sait pas très bien comment ça va s'agencer ni ce que ça va produire, mais qui ont une forme, une potentialité, une forme de vitalité implicite, et c'est ce qui me semble aussi résonner dans ce que vous souleviez sur la question d'Israël-Palestine. C'est typiquement un endroit chaotique au possible, et d'où émerge quelque chose de qui est en train de s'imposer par son endurance, sa capacité à persister dans les corps, au milieu de la saleté, alors qu'il y a un stress hydrique et une privation d'eau qui est fomentée, entretenue délibérément, et que c'est le Jourdain qui est l'enjeu de la guerre, en fait. Tout ça, c'est quelque chose qui fait partie, en fait, de ces réagencements qui restent à imaginer, effectivement. Et la question, juste pour finir, hein, c'est ça. Et donc, la question de... Alors, c'est intéressant parce que settler colonialism, en français, c'est la colonisation de peuplement. Ouais, mais en fait, c'est un peu gentil en français, je trouve.
C'est gentil. C'est pour ça que souvent on dit settler colonialism, on le garde en anglais en fait. Il y a une forme d'aplatissement de la violence de ce que dit l'anglais en français. Oui, c'est ça. En fait, il faudrait trouver un terme. Et là, on voit bien comment est-ce que, par exemple, en anglais, land and earth, c'est pas la même chose, et ça se dit de la même manière en français. Là aussi, il y a une sorte de vacuité sémantique. C'est la terre. Dans les deux cas, on utilise le même mot, et je suis un peu démunie par rapport à ça. Alors même qu'effectivement, il y a bien une prédation touristique, il y a une forme de colonialisme touristique absolument qui se met en place, et y compris d'ailleurs en Israël. Enfin, moi, je suis toujours... je trouve ça déchirant de voir les publicités pour Israël comme destination touristique, alors qu'on est en pleine zone de guerre, on est dans une zone d'occupation, de colonisation. C'est tragique, quoi, la façon dont... on le sait très bien par le gay-friendly, par le whitewashing, par le greenwashing et le pinkwashing. Enfin, toutes les couleurs sont passées par là. Et là, il y a vraiment une... C'est pour ça que je pense que ces tracés-là, en fait, que j'ai à peine ébauchés, là, ils passent par ces endroits-là inéluctablement. Et c'est pas par hasard, d'ailleurs, que ce soit en Algérie ou même en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, ils écoutent. Et ils suivent avec beaucoup d'attention ce qui se passe au niveau de la Montagne d'Or, par exemple en Guyane, ce qui se passe en Écosse. Ça peut sembler étrange, mais si, en fait, y compris parce que Calédonie, c'est une référence à l'Écosse. Et ils sont profondément habités par ce qui se passe aussi en Palestine, Israël. Donc, ce sont toutes ces interférences, toutes ces mises en écho qui permettraient sans doute de penser ces formes de subalternatives. À venir.
Merci beaucoup.